7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
5 jours après le spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol, la colère gronde à Rouen. Le site classé en Céveso 2, autrement dit seuil haut, a pollué la ville par des suies et la population est toujours inquiète à cause des odeurs gênantes. Selon le Premier ministre Édouard Philippe, qui a fait le déplacement à Rouen hier soir, ces odeurs ne seraient pas nocives et la qualité de l'air n'est pas en cause. Aujourd'hui, plusieurs associations, ONG et syndicats, dont la CGT Greenpeace, appellent à manifester à 18h devant le palais de justice de Rouen afin de demander la vérité. Pour évoquer cet incendie, je suis en compagnie de Jean-Baptiste Fressos. Bonjour. Vous êtes historien et chercheur au CNRS. Vous avez notamment publié « L'apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique » aux éditions du Seuil. Ce qui s'est déroulé dans l'usine Lubrizol s'est déroulé dans un lieu qui est un lieu finalement habitué, hélas, aux catastrophes de ce type, et ce depuis plusieurs siècles, Jean-Baptiste Fressos.
Le lieu de Lubrizol, ça se trouve à moins d'un kilomètre de là où a commencé en fait l'industrie chimique en France, la grande industrie chimique. À la fin du XVIIIe siècle, Rouen, c'est une grande ville textile industrielle et ils ont besoin d'acide sulfurique en particulier. Et c'est à ce moment-là que se créent de grandes usines. C'est un Anglais qui s'appelle John Holker qui crée la plus grande usine à ce moment-là. Et le cas est intéressant parce qu'on a bien vu dès la fin du XVIIIe siècle une opposition entre les gens qui habitent sur place et l'État central. Et le gouvernement. Pourquoi ? Parce que le Parlement de Normandie, c'est une cour locale, hein, ne veut pas de cette usine. Et le gouvernement français force, en fait, dissout le Parlement et force l'implantation de cette usine. Donc depuis 2 siècles, en gros, il y a des territoires qui sont dédiés à l'industrie, au développement industriel. Il faut bien voir que c'est des gens, c'est des institutions qui réfléchissent pas à la même échelle. Le Parlement, il réfléchit à l'échelle de la région, de la ville, etc. Le gouvernement, il réfléchit à l'échelle de la France. Et il y a des zones qui doivent être sacrifiées pour produire, parce que c'est un secteur stratégique, le textile, à ce moment-là. Et donc, on a des zones qui sont vraiment à longue durée du risque industriel et de la pollution, effectivement.
Donc, on n'a pas affaire à une malédiction, on a affaire à une zone géographique qui, du fait de la présence de la Seine, des différentes infrastructures, est utilisée. Est-ce qu'on trouve dans cet accident originel avec donc cette pollution par les fumées corrosives de cette fabrique d'acide sulfurique, en quelque sorte la matrice de ces incidents à risque industriel?
Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en gros, on avait auparavant une police. La police, au XVIIIe siècle, elle mérite vraiment son nom. Ça s'occupe de l'urbain, de la ville. Et la police du XVIIIe siècle, elle se préoccupe au premier chef de la santé des populations. Son rôle, c'est de maintenir le bon air dans la ville. Et le problème, c'est que comment on fait une industrialisation avec cette police? C'est un peu ça qui s'est passé entre 1770 et 1810. C'est des essais de dire, voilà, comment on va rendre possible l'industrialisation et son cortège, évidemment, énorme de nuisances, de pollution, de risques, d'accidents, d'incendies, tout ce que vous voulez, dans le cadre d'une police qui, elle, disait, voilà, non, si c'est dangereux pour la santé, il faut l'exclure de l'espace urbain. La police avait en fait un droit énorme, un pouvoir énorme à cette époque, à la fin du 8e siècle, parce qu'elle pouvait interdire les activités qui lui semblaient dangereuses en ville. Donc ça faisait peser une grosse incertitude sur l'industriel. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un décret extrêmement important qui est vraiment fondateur. On dit qu'il est fondateur du droit de l'environnement, mais en fait il est fondateur du droit à polluer. C'est le décret de 1810. Le décret de 1810, donc c'est en pleine époque napoléonienne, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros, il faut que les usines demandent une autorisation administrative. Et on pouvait penser que c'était un peu écolo vu qu'il fallait demander une autorisation. Mais en fait, c'est l'inverse que ça produit parce que une fois que l'usine est dûment autorisée, les voisins ont aucune chance d'obtenir son déplacement. Et donc, c'est vraiment ce décret-là qui est hyper important dans le basculement. Et on en voit encore la trace maintenant, mais c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire, déjà, ça produit une énorme inertie des sites industriels. Alors, le cas de Lubrizol est un peu différent parce que ça s'est mis en place dans les années 1950. Mais il y a beaucoup de zones industrielles. Une fois que vous avez une autorisation de faire quelque chose de polluant à un endroit obtenu à partir du 19e siècle, selon le décret de 1810, vous n'avez aucun intérêt à vous déplacer. Tout simplement parce que vous avez un avantage compétitif, vous êtes près d'un marché, etc. Donc ça stabilise, ça fixe les lieux industriels. Deuxièmement, la chose aussi hyper importante, c'est que sous ce régime du décret de 1810, le but, c'était de soustraire l'industriel de la justice pénale. En gros, au XVIIIe siècle, si vous faisiez quelque chose de trop polluant, par exemple, même vous polluiez une rivière, vous pouviez aller en prison. Enfin, c'était des choses tout à fait sérieuses. Après le décret de 1810, le seul recours possible, ce sont les tribunaux civils. Ce sont donc les voisins qui vont demander compensation pour la pollution.
Mais alors, ce que l'on observe pour ce site de l'usine Lubrizol, c'est que cette fois-ci, c'est la ville qui a avancé. Donc, en 1770, c'était encore la campagne. Ouais. Il y avait des problèmes, d'ailleurs, avec la végétation aux alentours. Bon, aujourd'hui, il reste de la végétation, mais elle est vraiment à chercher dans ce coin-là. Est-ce que ça veut dire que, finalement, avec l'apparition de ces termes, Céveso, seuil 2, les choses ont changé parce que on a de moins en moins peur de ces sites-là? Est-ce que c'est ça le problème, Jean-Baptiste Fressoz?
Alors, s'il y a Céveso, évidemment, ça joue. C'est-à-dire, on a l'impression d'une maîtrise, vu qu'on a des inspecteurs, il y a toute une administration qui se met en place, de normes, etc. Et ça donne une maîtrise du risque, faut pas non plus le négliger, mais ça donne aussi l'illusion de la maîtrise. Et on voit d'ailleurs, avec cet accident, cet accident est absolument spectaculaire, mais des accidents dans les établissements classés, il y en a un millier par an qui ont lieu en France. Donc, c'est quelque chose d'assez normal, en fait, le risque.
Oui, c'est ça, d'ailleurs, qui est extrêmement étonnant, c'est qu'en fait, quand on prend les statistiques, 827 en 2016, 978 en 2017 et 1112 en 2018, ce qui veut dire que là, on parle à raison de ce qui s'est passé dans l'usine Lubrizol, mais en réalité, il y en a énormément des incidents dans des sites classés Céveso.
Alors les sites, alors ça c'est dans les sites, c'est pas les sites Céveso, ça c'est dans tous les sites, les établissements classés. Il y en a 500 000 en France. C'est quelque chose, enfin les sites classés, ça peut être des pressings, des stations essence, enfin c'est quelque chose de très vaste. Les sites Céveso, il y en a beaucoup moins, il y en a un millier ou 1200 je crois en France.
Mais alors 25% des incidents qui se sont déroulés en 2018 étaient dans des sites Céveso, ce qui représente quand même un chiffre comparable, ça doit faire un millier à peu près sur 3 ans.
Oui, non, effectivement. Enfin, le faudrait pas que cet accident qui est effectivement très spectaculaire, ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que même la forme de pollution, donc des suies d'hydrocarbures, en fait, c'est la pollution. Alors là, évidemment, c'est un cas extrême, mais c'est la pollution qu'on respire chaque jour dans les grandes villes en France. C'est vraiment lié. En fait, toute l'histoire est liée à l'automobile, cette affaire de Lubrizol.
Pourquoi?
Ce sont des lubrifiants pour moteurs. C'est lié donc aux hydrocarbures. Vous parlez de la suburbanisation qui fait qu'en gros, la ville a manger en quelque sorte l'usine, mais ça c'est possible que parce qu'il y a des automobiles. Donc on voit bien que l'enjeu c'est en fait le choix de l'automobile, c'est pas tant cette usine ou l'autre, c'est le choix de l'automobile à essence, quoi.
Mais malgré tout, comment réussir à comprendre que 40 ans après la première directive Céveso, aujourd'hui on est la cohabitation sur un espace extrêmement restreint? Alors il y a les boucles de la Seine, parce qu'il faut voir la géographie particulière de Rouen et de son agglomération, mais on a une coexistence sur des distances extrêmement réduites d'industries qui sont dangereuses, polluantes, je ne sais pas quel terme employer, et un milieu urbain extrêmement dense, Jean-Baptiste Fressoz.
Alors, je pense que c'est tout simplement lié aux capitaux en jeu, c'est-à-dire que vous n'allez pas déplacer une usine où il y a une centaine de millions, voire des milliards qui ont été investis. C'est des enjeux économiques énormes, en fait, la chimie. Ce que montre aussi cet accident, c'est que la France reste une très grande puissance de la chimie industrielle. Lubrizol, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est 100 millions de profits de résultats par an. Tout ça, c'est des enjeux économiques majeurs. La chimie, c'est le premier avec l'aéronautique, poste d'exportation de la France. Donc c'est vraiment hyper important pour l'économie française. Donc tout ça fait qu'évidemment, on ne va pas non plus être trop sévère. Et d'une certaine manière, Céveso, ça servait à ça. Céveso, ça servait à lisser en fait les normes, les normes de sécurité, etc. à l'échelle européenne pour éviter des désavantages compétitifs de pays qui seraient plus exigeants que d'autres.
Les lycées, ça veut dire les lycées par le haut, par le bas?
Il y a des débats en France, on ne sait pas trop exactement, enfin c'est compliqué, ça dépend des pays. Des pays avaient des normes plus avancées, d'autres moins avancées, mais c'est compliqué en tout cas.
Mais est-ce que ça veut dire que la France est plutôt bon élève en la matière, Jean-Baptiste Fressoz? Est-ce que ça a un sens de poser cette question?
Je crois que la France n'est pas plus mauvaise ou bonne élève sur les risques industriels que ses voisins européens. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, alors, il y a les normes. ça peut sembler la chose essentielle, mais ce qui est important, en fait, c'est l'application de ces normes. Et le problème, c'est que dans les derniers temps, sous prétexte de simplification, c'est vraiment le mot-clé, d'ailleurs, sous gouvernement Macron aussi, hein, il faut simplifier pour nourrir la croissance économique. Sous prétexte de simplification, il y a quand même une forme de détricotage du droit et de son application. C'est-à-dire que, par exemple, avant, il fallait que les usines des établissements classés soient soumises à autorisation. Maintenant, il y a toute une partie des établissements classés qui sont soumis à un simple enregistrement. Mmh. Alors, ça peut sembler pas très important, mais c'est en fait des dossiers qui n'ont absolument rien à voir en termes d'exigence de documents. Il n'y a pas d'études d'impact, c'est beaucoup plus léger. Et d'autre part, les établissements classés, je vous dis qu'il y en avait 500 000 en France. Des inspecteurs des établissements classés, il y en a un millier. Donc on voit à peu près la tâche absolument gargue, énorme quoi, d'aller inspecter ces établissements. Et donc c'est plutôt ça le problème, c'est plutôt l'application des normes que se disputer sur la norme exigeante ou pas.
Il y a une nomenclature assez précise qui a été faite avec des doses maximales acceptées, des seuils d'acceptabilité de ces polluants ou de ces matières dangereuses. Est-ce que ça c'est une démarche qui vous paraît cohérente? Est-ce que là, avec l'incendie de l'usine Lubrizol, est-ce que on n'atteint pas finalement la limite? Parce que, alors, il faut utiliser le conditionnel, mais semble-t-il, le feu se serait déclaré à l'extérieur. Et donc, on voit les conséquences que cela a eues sur le site du Lubrizol à Rouen, Jean-Baptiste Fressoze.
Alors le problème des seuils, il y a deux choses. Il y a les seuils Seveso, c'est en gros la quantité de matériaux inflammables, etc., que vous pouvez laisser dans l'atmosphère, vous laisser sur place, stocker. Et puis après, il y a les seuils de qualité de l'air, qui sont deux choses différentes. Les seuils de qualité de l'air, ça a été bien étudié par des collègues, ce que ça produit, ça a servi vraiment, c'est souvent pour les pesticides que ça a commencé dans les aliments et puis dans la qualité de l'air que respiraient les travailleurs, ça a servi à normaliser un taux de cancer acceptable. C'est-à-dire l'enjeu, c'était vraiment de dire on a des molécules qui sont manifestement efficaces, on sait que c'est dangereux, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc on va définir un seuil où on estime, en fonction du coût de la vie humaine calculée, etc., est-ce que ça vaut le coup d'autoriser ou non ces substances? Ça a commencé aux États-Unis dans les années 1950, ce genre de régulation par seuil. Donc la question du seuil, elle est beaucoup plus importante que simplement le cas de Seveso et le cas de cette usine. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, on voit que c'est une forme de désinhibition. C'est ça, moi, qui me semble frappant. C'est-à-dire, je vous ai parlé du décret de 1810, où en gros, le but, c'était d'autoriser à polluer, d'autoriser les usines en ville, avec comme contrepartie, une compensation pour les dommages environnementaux. On est exactement là-dedans aussi. On dit, l'État va avancer la trésorerie, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ce sera l'État forcément, mais bon, va avancer la trésorerie aux agriculteurs pour les dommages. Donc là, on est vraiment aussi sur une longue durée de la régulation, on compense. Mais on voit bien par contre que la responsabilité pénale de l'entrepreneur est quasi nulle. Il y avait eu une pollution précédente sur le même site. Je crois que l'amende avait été de 4000 euros.
Elle a été de 4000 euros, mais alors Lubrizol explique que c'était en fait un rejet d'un gaz, le mercaptan, qui permet de donner son odeur au gaz inflammable et qui par conséquent n'avait pas de caractère nocif. Alors là,
Mais d'une manière générale, le problème, c'est que tout ce qui est, donc par exemple les inspecteurs des établissements classés peuvent mettre, quand on voit que quelque chose n'est pas aux normes, ils peuvent mettre sous astreinte une entreprise. L'entreprise doit payer une certaine somme par jour. La somme, c'est 1500 euros. Qu'est-ce que vous voulez qu'une usine qui fasse un milliard de chiffre d'affaires ait quelque chose à faire d'une astreinte de 1500 euros?
Ça paraît effectivement dérisoire. Le risque, ça n'est pas le danger, Jean-Baptiste Fressoze. Il y a beaucoup de choses qui sont risquées, mais comme elles sont appréhendées par des spécialistes, avec des règles, des procédures, elles sont moins dangereuses. Est-ce que là, on n'a pas rapidement tendance à tout mettre dans le même sac?
C'est-à-dire que la chose qui me semble importante, c'est que tout ce système d'expertise, de normes, on a l'impression que, évidemment, ça contrôle le danger, mais en fait, ça entérine le fait accompli industriel, ça accompagne le danger, ça le rend acceptable. C'est ça qui me semble la chose vraiment importante, et on le voit bien, il me semble, dans ce cas-là. De la même manière, quand Édouard Philippe fait la différence entre « ça sent mauvais, mais c'est pas dangereux », ça, c'est un argument, quand on est historien de la pollution, on l'a entendu, mais dans les archives, répété et répété sans cesse depuis la fin du XVIIIe siècle, en fait. C'est-à-dire que à la fin du XVIIIe siècle, l'odeur était pensée comme un signe hyper important de danger. Mmh. Parce qu'on pensait que ce qui déterminait la santé, c'était l'environnement, c'était les choses, l'air, l'eau, etc. Et à partir du début du 19e siècle, il y a des experts qui vont dire, voilà, nous, on va être vraiment les vrais experts qui définissent le danger. Et on peut vous dire que, en fait, ce qui pue n'est pas forcément dangereux. Voilà, ça va être vraiment ça le grand argument, avec renfort de statistiques, etc., en montrant que les...
Mais c'est un mauvais argument ou c'est un bon argument? Parce que les historiens, vous êtes historien, Jean-Baptiste Fressoz, ont tendance à historiciser. Alors, donc on voit la genèse.
Ça a été parfois de très très mauvais arguments, pour vous dire la vérité. C'est-à-dire, sur les usines acides dont je vous parlais, ça émettait plein d'acide chlorhydrique. C'est sûr que c'est pas bon pour la santé de respirer l'acide chlorhydrique. Enfin, je veux dire, sans même être...
C'était mauvais pour les végétaux, en l'occurrence.
C'était mauvais, évidemment, pour tout ce qui était... C'est les agriculteurs qui se plaignaient beaucoup parce qu'ils voyaient leur récolte détruite. Ça aussi, une continuité d'ailleurs. Donc ça peut être un bon argument parfois, mais c'est généralement un très mauvais argument, effectivement.
Mais la question de l'arbitrage entre une industrie dangereuse et les emplois, parce que ce sont des emplois, si l'industrialisation, y compris cette industrialisation, est considérée comme étant un bien collectif, c'est parce qu'elle fournit des emplois. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi... une sorte de paradoxe.
Il faudrait se poser la question sur l'importance de la voiture. C'est pour ça que je vous dis la question, c'est la mobilité individuelle en voiture. C'est ça le vrai sujet. Vous dites c'est des emplois, c'est pas tant d'emplois que ça. Hein. Lubrizol, c'est 250 emplois pour un chiffre d'affaires d'un milliard. Ça veut bien montrer aussi que la chimie, c'est un truc très spécifique.
Bah, sur un seul site, un milliard.
Ah, il faudrait vérifier exactement le Lubrizol en France, quoi. Donc c'est peut-être plusieurs sites effectivement. Il faudrait vérifier. Vous avez raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'industrie chimique, c'est quelque chose qui est assez peu intensif en main d'œuvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France est aussi importante, enfin l'Europe, une grande puissance de la chimie, c'est qu'on a relativement peu délocalisé en fait la chimie industrielle.
Et donc aujourd'hui, on voit finalement qu'il y a toujours cette hésitation entre la volonté de rajouter des normes qui est peut-être imposée à chaque catastrophe, parce que là aussi on a un historique, on va en reparler dans quelques instants, mais il y a déjà eu la catastrophe d'AZF, il y a eu l'incendie à Fézin, donc autrement dit dans la banlieue de Lyon, c'était en 1966, je crois que c'était une raffinerie. Il y a donc eu ces précédents-là, est-ce qu'ils ont fait bouger les choses, Jean-Baptiste Fressoz?
Alors après AZF, il y a eu Céveso. D'ailleurs, le Céveso, au départ, les normes Céveso, c'est lié à un accident industriel en 1976 en Italie, en Lombardie, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, après chaque accident important, il y a des rafistolages, des améliorations, etc. Mais la logique fondamentale qui est de dire on autorise, on met des normes, et à partir de ce moment-là, l'industriel n'est pas... a quasiment peu d'obligations, il n'est pas responsable pénalement par exemple, ou très peu, ou c'est très difficile. Ça, c'est une logique qui perdure et qui est structurelle. C'est pour ça que c'était intéressant de remonter à 1810, désolé de faire des tours historiques, mais c'est qu'en plus ce décret-là, il a été copié dans un nombre de pays, alors copié involontairement parce que c'est sous l'Empire, donc forcément ils n'ont pas trop le choix. C'est au moment où l'Empire français est à son apogée. Il a été copié dans plein d'autres pays, donc ce type de régulation-là, sa logique même, produit ce type d'accident industriel, en fait, j'ai envie de dire.
Et cependant, on voit, alors, à tort ou à raison, c'est à vous de nous le dire, que les populations ne sont aujourd'hui pas suffisamment protégées, Jean-Baptiste Fressoz.
Est-ce que les populations... Enfin, je veux dire, quand vous habitez près de telle quantité de matière, d'hydrocarbures, etc., de fait, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement difficile de protéger en cas d'accident. C'est-à-dire, on a vu l'étendue du panache de fumée, ça allait jusqu'en Belgique. Donc, est-ce que vous voulez protéger des millions d'hectares ou de personnes, quoi.
Jean-Baptiste Fressoz, L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique. C'est votre livre, un très bon livre, paru aux éditions du Seuil. On va continuer d'évoquer cet incendie, cet incident, bref, on va tenter de le qualifier, ce qui s'est déroulé dans l'usine Lubrizol de Rouen, dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
8h22, tandis que l'on s'interroge sur ce qui s'est réellement passé sur ce site de Lubrizol à Rouen, les Rouennais, et pas seulement eux d'ailleurs, veulent la vérité. On en parle avec Renaud Bécaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire de l'environnement, membre du RUCH, le réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale, et vous êtes en duplex au bureau de Radio France à Lyon. Et puis à côté de moi, Myriam Benrad, bonjour. Myriam Merad, pardon. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'UMR, l'ANSAD, le laboratoire d'analyse et de modélisation des systèmes de décision, et ancienne chercheuse à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. J'ai envie de vous poser une question simple, mais terriblement compliquée. Est-ce risqué? Y a-t-il eu véritablement mise en danger des populations à Rouen, Myriam Merad?
Alors, je ne pourrais pas répondre directement à votre question, mais parce qu'il faut attendre les conclusions d'une enquête hein, qui se fait après accident. Ce que je peux vous dire, c'est que le site Lubrizol est un site Seveso seuil haut, que depuis la loi risque 2003 et depuis l'accident d'AZF, il y a eu de considérables avancées qui se sont faites dans le cadre réglementaire et notamment pour les sites à haut risque, au-delà des autres sites qui existent. Il y en a en France plus de 1400. Hein, et sur ces 1400, plus de la moitié sont Seveso seuil haut, comme dans le cas de Lubrizol.
Qu'est-ce que ça veut dire seuil haut ?
Alors, seuil haut, ça veut dire que, en fait, ça détient une certaine quantité de produits chimiques et que ces installations sont classées comme étant dangereuses pour l'environnement. Là, effectivement, il faut faire la distinction entre danger et risque. Et effectivement, il y a un sens commun de ce que veut dire danger et ce que veut dire risque, et il y a un sens technique.
Alors,
il peut y avoir
ce que ça veut dire danger et risque pour vous.
Voilà, un danger, c'est effectivement la possibilité qu'un événement se passe sur une installation à risque. Et un risque, c'est le fait qu'il y ait des personnes, des biens, un environnement qui soit exposé. Donc, il faut qu'il y ait ces éléments vulnérables. Donc, dans le cadre de la loi risque de 2003, il y a eu effectivement énormément d'avancées sur la manière avec laquelle on gère les risques. D'abord, la réduction des risques à la source, hein, une amélioration des démarches de réduction des risques à la source avec l'amélioration des études de danger. Les études de danger, en fait, c'est un certain nombre de scénarios d'accidents qui sont analysés et en fait qui sont qualifiés suivant leur potentialité d'occurrence, hein, et l'ampleur de leurs conséquences.
Est-ce que ça veut dire, Myriam Merad, qu'il y a eu, par exemple, sur ce site Lubrizol à Rouen, différents scénarios, on s'est dit, voilà, s'il y a un incendie, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, effectivement, ce qui se fait pour tout site industriel, c'est qu'il y a, et notamment pour les sites Seveso seuil haut, il y a énormément de dispositifs pour gérer les risques au sein du site industriel, mais sur le territoire. Donc, il y a une étude de danger, effectivement, avec ce processus participatif et le fait d'identifier les scénarios à risque, dont l'effet toxique, surpression, thermique. Mais il y a aussi un autre dispositif qui est la maîtrise de l'urbanisation autour des sites à risque hein, et le renforcement de ceux qui existent déjà, ce qu'on appelle les plans de prévention des risques technologiques.
Alors, on va prendre les deux termes. Le premier, les scénarios, ces scénarios à risque, qui les contrôle ?
Alors, effectivement, il y a une inspection des installations classées. Depuis l'accident d'AZF, il y a eu un doublement de nombre d'inspecteurs d'installations classées.
Donc, on dit qu'il y en a très peu par rapport au nombre d'installations dangereuses en France.
Alors, en équivalent temps plein, il y en a autour de 1400, en équivalent temps plein. Donc, il y en a. Certes, les dotations pourraient encore être supérieures, mais en tout cas, l'État a fait un effort significatif pour doter en inspecteurs des installations classées.
Et le second volet sur l'urbanisation, ce que l'on ne comprend pas avec ce site de Lubrizol, on le comprend intellectuellement, mais moralement, on se dit que c'est compliqué d'avoir laissé faire cela. Les maisons sont extrêmement proches du site. Était-ce bien raisonnable, Myriam Merad ?
Alors, il faut savoir deux choses. C'est que, en fait, dans le passé, vous avez dû le voir avec l'intervenant précédent,
avec
c'est
Jean-Baptiste
que,
Fressos,
effectivement, les sites industriels étaient excentrés de la ville. Et puis, au fur et à mesure, vous avez eu une urbanisation galopante qui faisait qu'en fait, il y a eu un rapprochement entre un site industriel et une ville. Maintenant, l'État, c'est-à-dire les services de l'État, veillent en concertation à effectivement gérer ce passif. C'est pour ça qu'effectivement, il y a ces mécanismes de plan de prévention des risques technologiques. À quoi ça correspond ? C'est qu'on imagine des scénarios qui sortent des limites des sites, des scénarios d'accident, et effectivement, on met un certain nombre de dispositifs constructifs qui vont viser à renforcer le bâti ou renforcer la protection des populations.
Alors, on dit par exemple que Seveso seuil haut, c'est mieux que Seveso seuil normal parce que un industriel qui est classé de cette manière-là a par exemple l'obligation d'avoir des pompiers sur place.
Alors, Seveso seuil haut et Seveso seuil bas. Il y a toute une nomenclature des installations classées qui fait que, en fonction de votre niveau de dangerosité, vous avez des dispositifs réglementaires qui s'imposent à vous et qui vont combler la politique de gestion des risques à la fois à l'interne du site industriel et à l'extérieur. Par exemple, en plus de la maîtrise de l'urbanisation pour les Seveso seuil haut, vous avez des dispositifs de concertation qui sont les comités locaux d'information et de concertation, qui sont composés de plusieurs collèges d'acteurs, dont les riverains, dont les services de l'État.
Renaud Bécaud, vous êtes en duplex à Lyon. Cet incendie de l'usine Lubrizol à Lyon vous rappelle des cas que vous avez étudiés. Je songe par exemple à ce cas qui est demeuré matriciel en France, un incendie qui est survenu dans une raffinerie à Fézin, c'est donc dans la banlieue de Lyon, et c'était en 1966, vous l'avez étudié. Quelles ont été les leçons qu'on a tirées de cet incendie, Renaud Bécaud?
Oui, alors déjà sur l'histoire des risques industriels, et en particulier dans la région de Rouen, avant de revenir à Fézin, il y a un point à mentionner, c'est que la région de Rouen, historiquement, a été une région dans laquelle il y a eu un développement très précoce de l'industrie chimique. Avant même la période de la Révolution française, dans les années 1770, il y a eu des installations chimiques à Rouen qui étaient des installations d'acide sulfurique qui étaient très précoces pour l'époque. Et donc Rouen est aussi un des lieux où s'est inventée la réglementation de la gestion des pollutions industrielles en France. Alors pour ce qui concerne Fézin, effectivement cet accident, il survient en 1966, au début de l'année 1966, dans une raffinerie qui a ouvert ses portes 2 années avant, dans un contexte très particulier de transition énergétique de la société française. On est dans les années où le pétrole devient la source d'énergie la plus consommée en France, dans des années aussi où le pétrole algérien commence à être raffiné en France, et c'est pour cette raison-là que la raffinerie de Fézin avait été ouverte à ce moment-là. Donc l'accident dans une raffinerie qui est présentée à l'époque comme extrêmement moderne va marquer l'opinion, va marquer les médias. Il y a une médiatisation très importante de cet accident et ça va entraîner effectivement dans la foulée l'invention d'une politique qui va être dite de l'environnement industriel. Alors cette politique de l'environnement industriel, elle va désigner l'ensemble des mesures de gestion technique finalement qui permettent de réduire les pollutions ou les risques ou qui visent à réduire les pollutions ou les risques, mais qui ne prennent pas en compte les dimensions de santé des populations. Il y a une disjonction très nette qui se fait entre cette politique de l'environnement industriel et les politiques de santé ou les politiques du travail.
Disjonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se désintéresse de la santé des populations qui sont autour de ces sites industriels, Renaud Bécaud?
Ça veut dire qu'on considère que ce n'est pas la prérogative du ministère de l'Industrie, puisque le service de l'environnement industriel se met en place d'abord à l'intérieur du ministère de l'Industrie à la toute fin des années 60. Et les fonctionnaires du ministère de l'Industrie considèrent à ce moment-là que la santé relève du ministère de la Santé et que ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise à l'échelle du travail, à l'échelle des ateliers, relève du ministère du Travail et non pas de leur prérogative. Ce service de l'environnement industriel, il sera par la suite rattaché au ministère de l'Environnement au début des années 70 et c'est lui qui va réviser les législations sur les établissements classés. Sachant que le premier décret sur les établissements classés, Jean-Baptiste Fressoz l'a évoqué, date de 1810, qu'il avait été révisé ensuite en 1917 et qu'il sera de nouveau révisé en 1976 puis en 2003.
Myriam Mérade, vous qui êtes directrice de recherche au CNRS et ancienne chercheuse à l'Institut National de l'Environnement Industriel.
Oui, en fait, Monsieur Bécaud, vous avez pointé effectivement cette disjonction entre la partie environnementale et santé. Et effectivement, dans plusieurs crises post-accident, cette disjonction entre ces deux parties, environnement et santé, va se poser. Et effectivement, elle est l'héritage d'un historique des séparations de corps de l'État qui, en fait, dans le domaine des risques industriels, va être très focalisé sur la partie environnementale. Il se trouve que sur un problème corollaire qui était un problème de qualité de l'air et du suivi, en fait, d'un certain nombre de controverses autour de ces thématiques, nous avons constaté que la grande partie des éléments qui étaient remontés comme un manque de confiance envers les services de l'État étaient en fait issus d'une espèce de segmentation des prérogatives de l'État entre santé et environnement. Ce qui ne veut pas dire que la partie santé n'est pas couverte, c'est que effectivement, comme il s'agit de deux corps différents, il y a une difficulté de lecture de l'extérieur d'une politique unifiée de gestion des risques.
Et puis, il y a eu une autre modification avec des conséquences sur la santé, alors cette fois-ci la santé du personnel, c'est la disparition du CHSCT, qui est donc l'organe de sécurité qui existait préalablement dans les entreprises. Il a disparu, pas seulement dans l'usine Lubrizol, mais il a été supprimé à la faveur des réformes du droit du travail. Et du coup, plus rien ne l'a remplacé, Myriam Mérane ?
Alors en fait, effectivement, il faut dézoomer du cas de Lubrizol et savoir qu'en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions à la fois dans le code du travail, du code de l'environnement et du code de la santé publique. Et en fait, effectivement, le CHSCT était une émanation du CE.
Et du comité d'entreprise.
Donc
la commission d'hygiène et de sécurité.
Et environnement. Et avait effectivement été saisie, soit par les élus du personnel, soit par le CE, soit par les salariés, pour prendre en charge ces problématiques liées au risque, à la sécurité, à la sûreté. Mais effectivement, avec la réforme du droit du travail, le CHSCT redevient une commission du CE, qui fait que. Il peut y avoir l'impression d'une perte de mise en perspective des problématiques risques et sécurité au sein des entreprises. Mais c'est une tendance générale. Ce à quoi on devrait être vigilant, effectivement, au-delà du cas de Lubrizol, c'est que depuis le cas AZF, il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire sur, effectivement, quels ont été les effets de la politique de prévention des risques durant toutes ces années.
Votre point de vue, Renaud Becot, vous qui êtes doctorant en la matière, est-ce que on a évalué la politique des risques? Parce qu'on a parlé de Fezzin, donc ça c'était en 1966, il y a eu ensuite la catastrophe d'AZF avec plus de 30 morts, des blessés. Est-ce qu'on en a profité, si j'ose dire, pour revoir les procédures sur ces sites dangereux?
Alors oui, finalement, après chaque catastrophe, on a revu les procédures sur ces sites. Pour insister sur la question des CHSCT, c'est un point qui est extrêmement important après l'accident de Fezzin notamment, et dans les années 70 et 80, dans le sens où ces instances qui étaient nées effectivement au départ comme étant très liées au comité d'entreprise vont avoir une autonomie de plus en plus importante, avec des horaires, des temps de délégation pour les salariés qui sont investis dans ces instances, qui vont pouvoir faire des enquêtes et lancer un certain nombre d'alertes sur des dysfonctionnements à l'intérieur des entreprises et donc permettre de prévenir un certain nombre de facteurs de risque. Donc c'est une instance qui a eu un rôle très important dans les industries chimiques dès que les salariés s'en sont saisis. Aujourd'hui, effectivement, donc c'est remplacé par les comités socio-économiques dans lesquels il pourrait y avoir des commissions santé, sécurité, conditions de travail pour les entreprises de plus de 300 salariés, mais on n'a pas encore de bilan d'expérience de ce qui peut être fait puisque c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place cette année en l'occurrence. Un point aussi important sur les CHSCT, c'est de voir que à la fois ça a permis d'émettre des alertes à l'intérieur de l'entreprise sur des dysfonctionnements internes, mais que ça a également permis depuis les années 70 à des salariés d'alerter à l'extérieur de l'entreprise, dans le sens où dès les années 70, par exemple, il y a un certain nombre de municipalités industrielles, en particulier dans le couloir de la chimie au sud de Lyon, qui mettent en place des commissions extra-municipales de lutte contre les nuisances, qui se rapprochent un peu dans leur fonctionnement de ce qui a été institutionnalisé par la suite avec les comités locaux d'information qu'a évoqué Myriam Mérade tout à l'heure. Et ces commissions municipales de lutte contre les nuisances vont accueillir un certain nombre de salariés investis dans les CHS qui vont pouvoir publiquement pointer d'éventuels dysfonctionnements dans l'entreprise et donc maintenir une forme de vigilance face aux risques industriels qui peuvent survenir dans l'entreprise. Le rôle des salariés les plus investis dans ces CHS, il a été très important aussi dans les dernières années dans les comités locaux d'information qui sont devenus dans certaines régions des comités de suivi de sites. Et il y avait par exemple à Rouen un comité de suivi de sites autour de Lubrizol et des entreprises qui sont autour de Lubrizol, dans lequel avait été émise un certain nombre d'alertes par des salariés investis dans les CHSCT.
Ah, ça veut dire quoi? Parce que justement, on a l'habitude des CHSCT un peu partout, dans toutes les entreprises. On sait qu'ils peuvent avoir des directives extrêmement contraignantes. Vous expliquez, par exemple, un frigo dans un bureau, ça peut être un risque. Et puis à côté de ça, dans des usines où là, les risques sont importants, est-ce qu'ils sont
plus tolérant, plus coulant, ou est-ce que dans des usines comme celle de Lubrizol, de toute façon, il est impossible de faire plus? Est-ce que c'est ça que ça veut dire?
C'est difficile à dire actuellement, et bon, vous avez vu comme moi que dans tout ce qu'on peut lire depuis jeudi, dans la presse écrite notamment, ou à la radio, on n'entend pas la voix des salariés de Lubrizol jusqu'à maintenant. Leur parole est contrainte, on le comprend bien dans les conditions actuelles, mais on ne peut pas en dire plus tant qu'ils ne sont pas en mesure de s'exprimer. Mais ça pose la question de savoir dans quelles conditions est-ce qu'ils pourront s'exprimer. Est-ce que leur parole, dans les prochains jours, dans les prochains mois, sera protégée pour éventuellement faire savoir s'il y avait eu des alertes dans les mois précédents ou dans les années précédentes. Voilà, pour le moment, on ne peut pas en dire plus.
Myriam Merad.
Oui. À la question que vous posiez, qui était de savoir si on pouvait faire plus ou moins, là, il va falloir justement attendre les conclusions de l'enquête sur Lubrizol. Maintenant, sur ce qui est fait, à la fois porté par les élus du personnel et les CHSCT, et ce qui est fait par les services de l'État, les élus, toute information qui a été effectivement discutée au sein des CHSCT est généralement enregistrée et envoyée en copie à l'inspection du travail. Quand ça touche effectivement l'extérieur, ça va aussi vers l'inspection des installations classées. Donc les informations sont là. Les informations qui touchent les scénarios à risque, je vous parlais des comités locaux d'information et de concertation, beaucoup de choses sont dites au moment de ces comités d'information et de concertation, qui peuvent être consultées. Je ne connais pas le cas d'espèce sur le Lubrizol, mais ce que je peux dire, c'est que les faits qu'il y ait une enquête fait qu'à un moment donné, on peut avoir l'illusion d'une fermeture de la parole. Oui.
L'autre aspect, toujours si on reste dans le domaine de la parole, Renaud Bécaud, vous qui avez étudié des catastrophes précédentes, il y a aujourd'hui une attitude de défiance vis-à-vis des informations qui sont données par les pouvoirs publics. Tout simplement parce qu'on se dit que jadis, on nous a menti. Est-ce qu'effectivement, on nous a menti lors des catastrophes précédentes?
Alors, c'est une vaste question. Vous pensez à quelle catastrophe particulièrement?
Je pense à toutes les catastrophes, à Fezzin en 1966, pour l'une des catastrophes originelles, mais aussi à ce qui s'est passé à ZF à Toulouse. Est-ce qu'il y a eu une part de la vérité qui a été dissimulée à l'opinion publique? Est-ce qu'on a minimisé, par exemple, les risques? Ou est-ce que les pouvoirs publics ont fait véritablement toute la transparence sur ce qui s'était déroulé?
Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une part des risques qui était dissimulée dans le cas de Fezzin ou d'AZF. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que dans les stratégies de communication qui ont été déployées par les pouvoirs publics, il y a eu des évolutions depuis les années 60 et des évolutions qui affectent assez différemment les différentes administrations ou les différents corps de l'État. En 1966, après Fezzin, il y a un rapport qui est fait, un rapport d'enquête sur la façon dont les pouvoirs publics ont géré la communication après cette catastrophe. Ce rapport, il est réalisé principalement par des psychologues et des sociologues qui sont liés à la gestion des crises militaires. Et donc leur objectif principalement, c'est d'évaluer les comportements, les mouvements de panique qu'il y a pu y avoir au moment de Fezzin, de l'explosion de Fezzin, pour essayer par la suite de prévenir ces mouvements de panique. Donc là, on est vraiment dans une gestion des réactions humaines, des réactions des sociétés, et assez peu sur la dimension sanitaire ou environnementale dans ces années-là. Mmh. Ça va changer à la fin des années 70, puisque le service de l'environnement industriel que j'évoquais tout à l'heure, qui est rattaché au fil des années 70 au ministère de l'Environnement, va faire un certain nombre de commandes de rapports, notamment à des sociologues et à des ingénieurs dans le domaine à la fois des risques techniques et des enjeux de santé publique, pour évaluer la façon dont ont été gérées une série de catastrophes tout au long des années 70. Et donc là, on voit des inflexions avec une prise en compte de plus en plus importante dans les retours d'expérience des enjeux environnementaux et un petit peu des enjeux sanitaires.
Myriam Merad, est-ce qu'on peut croire les pouvoirs publics, sachant que là aussi, il y a eu des discours, parce que on dit c'est sans danger, enfin, si vous ramassez les suies, faites-le avec des gants, et puis, par ailleurs, les cultures ne doivent pas du tout être consommées. Bref, il y a des discours qui, sans être parfaitement contradictoires, sont difficiles à mettre en cohérence.
Alors, pour vous répondre, il y a des éléments qui sont plus vastes que le cas de la gestion des risques en France, dont je vais parler ici, qui sont en fait le fait que si l'on compare à la moyenne des pays de l'OCDE, le niveau de confiance des Français en la sphère publique est bas. Il en est de même pour les médias, d'ailleurs. Mais ça, c'est en général, hein, en tendanciel. Il y a un deuxième élément qui est très particulier en France, c'est que nous avons une telle complexité du secteur public qu'il est difficile pour un extérieur de faire la part entre le politique et l'administratif. Dans le cas de la gestion des risques, il y a effectivement tout un corps d'État, plusieurs corps d'État, qui prennent en charge ces aspects, au-delà du politique. Ce qui fait qu'en fait, beaucoup de défiance envers les politiques sont transposées au service de l'État, qui sont, et pourtant, deux éléments bien, bien distincts. Et la dernière chose, c'est qu'il y a on a la sphère publique la plus complexe au monde, la plus riche au monde, qui fait que cette complexité de la sphère publique rend difficilement lisible ce qui se fait au sein des services de l'État. Et pourtant, encore une fois, beaucoup de choses sont faites. Dans le cas des risques...
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, parce que malheureusement le temps presse, est-ce qu'on peut faire confiance en l'État aujourd'hui, autrement dit le Premier ministre par exemple qui s'exprimait hier, lorsqu'il dit tout sera fait pour que la transparence soit établie, est-ce qu'on peut le croire ?
Je vais renverser la question. Quels sont les éléments qui pourraient faire qu'on n'ait pas confiance ?
Je ne sais pas. Et par exemple, Tchernobyl, avec le nuage qui s'est arrêté à nos frontières.
Alors oui, mais sauf que Tchernobyl était un cadre particulier, effectivement, dans l'histoire, et ça touchait les risques nucléaires, que là, on est dans le cadre des risques chimiques, que effectivement, il peut y avoir des améliorations de la manière avec laquelle on... partage l'information sur les risques, mais c'est des améliorations. Il n'y a pas de volonté de cacher ou de masquer l'information.
Renaud Bécaud, un mot de conclusion à ce sujet ?
Oui, peut-être un point de conclusion qui est qui est une interrogation. Plus on peut pas affirmer grand-chose vu les informations qu'il y a pour le moment. Une question qui est plus sur la façon dont ont été faites les mesures, pardon, et de savoir si la façon dont étaient faites ces mesures, les moyens de mesure qui ont été adoptés permettent d'avoir l'ensemble des données sur l'éventuelle toxicité. Et un dernier point de conclusion qui est le fait qu'il y a une communication sur la présence d'amiante et de benzène sur le site de l'entreprise, avec une affirmation du pouvoir préfectoral pour le moment qui est de dire que ce risque est contenu dans le site de l'entreprise. Or, historiquement, il est très rare de voir ce type de risque circonscrit vraiment dans les murs de l'entreprise. Donc là, il y a une question qui se pose, mais il doit y avoir des résultats qui seront communiqués, notamment sur le risque amiante, dans la journée.
Merci Renaud Bécaud, vous êtes docteur en histoire de l'environnement, et Myriam Mérade, vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'analyse et de modélisation des systèmes de décision.